Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat, en cette journée mondiale des droits de la femme. La question du jour, c'est quelle place occupe la femme selon vous dans la société? Son rôle a-t-il changé ou évolué au cours des dernières décennies? On va faire des petites analyses avec vous. Vous allez nous donner votre point de vue sur la condition de la femme dans votre pays, dans votre région, dans le monde. Vous pouvez parler d'une manière générale éventuellement sur cette question. On en est, je crois, à la 42e journée mondiale de la femme. On parle essentiellement des droits de la femme dans le monde entier. Des événements sont organisés, des concerts, toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements. Les organisations féminines et autres, tout type d'organisations humanistes sont mobilisées. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, pour parler de la condition de la femme dans le monde, dans votre région. Et nous aimerions, bien entendu, avoir vos témoignages par rapport à cette journée. Est-ce que nous avons un premier auditeur, une première auditrice en ligne? Pas encore. On attend notamment de pouvoir joindre notre fidèle auditrice Marie-Jeanne Abega, qui est au Cameroun et qui a écrit sur le Facebook de VOA Afrique. En cette journée du 8 mars, elle pense que les choses évoluent, dit-elle. On retrouve les femmes dans les cercles de décision, mais beaucoup reste à faire car ce changement est visible dans des sociétés très sélectives. Le message n'atteint pas la majorité. La question du message, une question effectivement intéressante, à savoir si le message atteint vraiment les personnes. On a Mariam Koulibaly qui est au Mali. Mariam, bonsoir, comment allez-vous ?
Ça va bien, merci. Bonsoir à tous les auditeurs.
Un grand merci, bonne fête à vous. C'est un plaisir de vous entendre en cette journée spéciale, Mariam.
Alors, oui, merci beaucoup.
Alors voilà, déjà, comment est-ce que vous fêtez la journée vous-même au Mali? Est-ce que vous êtes très occupée par rapport à cette journée-là?
Oui, très, très occupée. J'ai discuté avec beaucoup de femmes. Pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que la journée du 8 mars. Mm-hmm. Parce que beaucoup de femmes, elles entendent la journée du 8 mars, la journée de la femme, mais elles ne savent pas ce que c'est. Je leur ai expliqué que ce n'est pas seulement de porter la tenue de l'uniforme du 8 mars, mm-hmm. mais c'est une journée qui permet aux femmes de réfléchir, de voir ce qu'on n'a pas eu cette année, l'année 2018, et ce qu'on doit faire pour l'obtenir en 2019. Mm-hmm. Et on doit se battre aussi pour l'égalité homme-femme, oui, mais l'égalité homme-femme dans le sens positif. C'est pas parce que les hommes sont là, ils sont présidents, ils sont ministres, et que nous, on doit rester à applaudir pour voter pour eux. Il faut qu'on vote pour nous-mêmes. Les femmes doivent choisir quelque chose. Ils doivent avoir un but, un objectif. Ce n'est pas seulement pour applaudir les hommes ou pour motiver les femmes pour voter pour les hommes. Non, on doit avoir nos objectifs, nous aussi.
Alors justement, Mariam, à propos de la place de la femme dans la société, est-ce que dans la société malienne, vous pouvez dire qu'il y a eu des progrès récemment, qu'elle occupe une place particulière, par exemple, que, je ne sais pas, au cours de ces dernières décennies, il y a des choses qu'elle peut faire et qu'elle ne pouvait pas faire auparavant?
Ou non? Il y a beaucoup de choses que nous, on peut faire. En dehors d'être femme ministre, femme premier ministre, les femmes qui sont en brousse, moi je peux dire que les femmes en brousse commencent à faire de la politique. Bah, si je dis la brousse, c'est au village. Au village, les femmes commencent à faire de la politique. Ils n'applaudissent pas seulement pour les hommes. Ils cherchent d'autres femmes, ils motivent d'autres femmes, elles activent d'autres femmes. et elle commence à remplir les postes, à occuper les postes de maire adjoint, de député, et tout ça, c'est un grand rôle que les femmes jouent maintenant au Mali.
Un grand merci, oui.
Par rapport à la violence faite aux femmes, les femmes, je motive les femmes pour qu'en cas de violence, qu'elles aillent se plaindre à la police ou à la gendarmerie ou chez le chef de village. Il ne faut pas qu'elles restent comme ça, battues par leur mari ou monopolisées ou maîtrisées ou qu'on leur fasse des mauvaises choses, alors que ce sont elles qui sont les noyaux même de la famille. Elles se lèvent à 4 heures du matin, elles préparent le petit déjeuner, elles pilent les mille, elles font tout. Le mari, bon, peut-être il travaille, mais ce n'est pas le même volume que chez la femme.
Merci beaucoup, Mariam. Mariam qui a bien mis l'accent en début de discussion sur les femmes en politique. Effectivement, quelle place occupe la femme dans la société? Eh bien, la femme a sa place en politique, bien entendu, de plus en plus. On a Esther Ngomba qui est en République démocratique du Congo. Esther, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous et bonne fête aujourd'hui.
Merci à vous également.
Alors vous êtes très occupée aujourd'hui, on imagine. Comment ça se passe chez vous, la fête des droits de la femme, la journée mondiale des droits de la femme, où vous êtes?
Oui, il y avait un défilé qui était organisé. Et bon, c'est vrai que la journée a été un peu dérangée par la pluie et tout ça, mais quand même il y avait un défilé qui était organisé, qui était prévu.
Alors, selon vous, quelle place occupe la femme dans la société aujourd'hui?
À ce 21e siècle, une place très importante. Est-ce que la femme, en plus des places ou des rôles qu'elle a joués dans nos sociétés traditionnelles, actuellement, elle s'est affirmée quand même en tant que grande actrice économiquement parlant. Et on sent aussi que quand elle intervient en politique et dans beaucoup d'autres secteurs, on sent que vraiment, la femme a un grand rôle à jouer.
Vous-même, Esther, est-ce que vous pensez que votre condition a évolué? Est-ce que vous pensez que vous avez plus de place si vous pouvez utiliser votre cas particulier, par exemple?
Bon, pour mon cas particulier, je peux dire que je suis tombée, donc je suis arrivée pour bénéficier de beaucoup de terrains déjà gagnés par beaucoup d'autres femmes avant moi. J'ai pas été obligée à beaucoup lutter comme elles. Bien sûr que je continue à lutter pour gagner aussi du terrain, mais pas comme les femmes d'avant. Donc, c'est comme par exemple la scolarisation de la jeune fille, par exemple. Personnellement, j'ai pas rencontré d'obstacles de ce côté-là parce qu'avant moi, il y avait quand même tout un combat mené par tout un tas d'organes, d'institutions, des femmes et tout ça. Et nous avons bénéficié des résultats de cette lutte-là. Alors, je peux dire qu'en général, la condition de la femme a quand même évolué, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup, vraiment beaucoup à faire.
Parlez-nous d'un point en particulier sur lequel il faut faire des progrès.
L'engagement de la femme elle-même, donc que la femme accepte de s'engager. Nous sentons qu'il y a... Souvent, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Souvent, nous accusons, voilà, il y a discrimination tout le temps. Mais parfois, quand on va à la source de ce qui est décrié, quand on analyse un peu objectivement, parfois on se demande, est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont eu l'intention de s'engager sur cette voie, qui ont été carrément écartées à cause du fait que ce sont des femmes ou il n'y a pas eu de femmes qui se sont portées candidates. C'est par exemple, je prends l'exemple des métiers d'ingénieurs et tout ça. Dans mon milieu, bon, je parle particulièrement de ma société. Déjà, au niveau des études, on sent qu'il y a peu de femmes qui s'engagent dans les études d'ingénieur. Ce qui va dire que quand il y aura un travail d'ingénieur, il y aura moins de femmes candidates. Alors, on ne va pas décrier le fait qu'il y ait moins de femmes qui travaillent en tant qu'ingénieur ou dans quelque chose de semblable. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, que la femme s'engage et puis qu'on visualise un peu le degré de discrimination aujourd'hui est un peu différent de l'époque passée. C'est vrai qu'il y a encore un peu de langage, de traitement même, mais ce n'est plus comme, tellement comme avant, comme auparavant.
Merci beaucoup Esther, on vous souhaite encore une très bonne journée pour aujourd'hui. On a Salimata Nebiye qui est au Burkina Faso, vous pouvez rester avec nous, on écoute Salimata. Bonsoir Salimata.
Bonsoir Nathalie, comment vas-tu?
Ça va très bien et vous-même?
Oui, ça va bien, merci.
Alors en cette journée au Burkina Faso, vous portez le pagne?
Ah, malheureusement, non. Moi, je n'ai pas du tout fêté la journée du 8 mars sous le signe du pain. Mm-hmm. Je l'ai fait cette journée plutôt sous le signe de la réflexion. Mm-hmm. J'essaie de revoir les différents diagnostics qui ont été posés depuis 10 ans. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Et où est-ce qu'on peut aller?
Alors, depuis 10 ans, où est-ce qu'on en est au Burkina Faso?
Mais au Burkina Faso, je pense quand même que la condition et les droits de la femme ont beaucoup évolué. Parce que vous savez, chez nous, on a une étape, vraiment cruciale que nous avons vécue avec la révolution en 1983. Et Thomas Sankara, il avait déjà balisé les luttes pour la femme. Il avait déjà mis la main sur le défi de l'éducation, le défi de la santé, le défi de l'autonomie politique, le défi de l'autonomie économique. Il avait vu en la femme vraiment un acteur majeur de la vie sociale et économique au Burkina Faso. Et ça a permis de libérer beaucoup de choses pour les femmes du Burkina. Quand vous venez ici, vous allez voir les femmes dans tous les métiers. Et dans la vie civile au Burkina, les femmes ont accès en fait à tous les métiers. C'est vrai qu'une fois le primaire passé, les études secondaires passées, il y a beaucoup de déperditions entre le secondaire et l'université. Mais une fois qu'elles franchissent l'université, sincèrement, tous les métiers leur sont ouverts. Elles sont médecins, elles sont mécaniciennes, elles sont pilotes d'avion. Elles sont dans des métiers vraiment qui ne sont pas traditionnels pour les femmes. On les retrouve un peu partout. Et cette année, le Burkina est en train de fêter le 8 mars sous le signe de la sécurité. Vous savez que nous vivons une situation sécuritaire très, très précaire et les femmes ont un rôle à jouer. Et le gouvernement a décidé quand même de les impliquer dans la lutte, dans la prévention de la sécurité au Burkina, la gestion des crises humanitaires, la gestion des crises sociales, les conflits intercommunautaires. Les femmes, elles sont obligées de tout ça parce que c'est elles qui portent les impacts de ces luttes, c'est elles qui portent les impacts de ces malheurs qui nous frappent. Que ce soit pour le terrorisme, l'extrémisme violent, elles sont vraiment au cœur, elles sont doublement frappées, mais on veut leur donner un rôle à jouer quand même. Cette année, le Burkina fait tous les signes vraiment de la sécurité.
Alors,
Merci
beaucoup, Salimata, pour ce rappel. Hein. C'est une réponse à la question, en somme, hein, quelle place occupe la femme dans la société? La femme a sa place dans les questions de sécurité, bien entendu. Salimata, est-ce que, selon vous, quel serait le point en particulier sur lequel il faudrait faire encore plus d'efforts dans votre pays en ce qui concerne les droits de la femme?
Tous les droits de la femme au Burkina, le travail majeur et le travail urgent et impératif à mener, c'est l'éducation. L'éducation est la clé qui va libérer tout le monde ici au Burkina. Je pense aussi que ce n'est pas le Burkina seulement, c'est aussi toute l'Afrique. Vous savez, nous avons eu des pionniers qui ont mené la lutte en surface. elles ont rien fait. C'était pour libérer la femme, pour qu'elle ait sa place dans la politique, pour qu'elle ait sa place dans l'espace. Mais au Burkina, quand même, je ne veux pas être, je ne veux pas peindre un tableau tout rose, mais je ne peux pas peindre un tableau tout noir non plus. Vous voyez, au Burkina, il y a des milliers, quand je dis des milliers, c'est vraiment des milliers d'associations. On parle de près de 30 000 associations. Et ces associations sont quasiment pilotées par des femmes. Ce sont des femmes qui animent les groupes dans les villages, dans les plus petits villages reculés du Burkina. Malheureusement, elles n'ont pas accès à l'instruction. Or, quand elles auront accès à l'instruction, ça va les libérer. Elles auront accès à encore plus de possibilités. Elles vont pouvoir saisir les opportunités qui vont s'ouvrir à elles. L'éducation est la clé qui va permettre aux femmes de jouir pleinement de leurs droits. Une femme qui n'a pas reçu une instruction, c'est très difficile même de lui parler des droits parce que la coutume, les coutumes sont tellement dures. Les coutumes pèsent tellement sur les femmes qu'elles vivent avec cette emprise-là. Elles n'arrivent pas à se libérer. Mais celles qui sont parties à l'école, même si c'est 2 ou 3 ans d'école, il y a un changement dans leur comportement, il y a un changement dans leur perception. Elles sont plus perméables au changement, elles sont plus ouvertes au changement parce qu'elles ont été exposées à des nouvelles choses, à des nouvelles idées, à des nouvelles visions et à des nouvelles possibilités. Et vraiment, elles les saisissent en pleine main. Moi, je suis très fière d'être burkinabé. On vit dans un pays qu'on dit pauvre, mais je ne le pense pas parce que les changements sont possibles chez nous. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour aller de l'avant. J'imagine que dans 10 ans, même si ce n'est pas avec ma génération, la nouvelle génération va faire en sorte que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits. Mais je peux vous garantir quelque chose, aucune femme n'est discriminée au Burkina parce qu'elle est une femme. J'en ai pas vu, mais la coutume pèse sur nous les femmes burkinabées. C'est la tradition qui nous coupe les ailes. Sinon, dans la vie civile, on a tout l'espace pour nous exprimer. On a toute la possibilité de nous exprimer, mais la tradition est encore là, très puissante, et c'est pas contre elle. C'est avec elle que nous allons négocier les voies pour nous sortir des droits qui nous sont refusés.
Merci beaucoup, Salimata. Vous avez rappelé dans tout cela, effectivement, le grand rôle de la femme dans le milieu associatif, et en tout particulier sur le continent africain. À très bientôt. Vous pouvez rester avec nous. On a Patricia Stanley en ligne, qui est en République démocratique du Congo. Patricia, bonsoir.
Allô, bonsoir. Oui, vous allez bien?
Oui, ça va bien. Et vous? Comment allez-vous?
Oui, ça va bien, merci.
Bonne fête également. Alors, comment ça se passe en République démocratique du Congo? Que faites-vous aujourd'hui? Vous êtes très occupée?
En tout cas, c'est chaud, oui. J'ai été occupée depuis le matin et là, je suis encore occupée. Le matin, nous devions passer une conférence sur la femme active. Et c'était un peu ça, on était occupée toute la journée. Et on a fini notre salon vers 17h. Et là, je suis encore dans une autre commune où je dois aller participer à une conférence. Donc, vous voyez, ici à Kinshasa, ça s'est fait. En tout cas, les femmes sont en activité. Ils ont eu à organiser plusieurs conférences où ils devaient parler, s'exprimer. C'est un peu ça.
Alors, Patricia, dites-nous, qu'est-ce qui a évolué, selon vous, dans votre région, en République démocratique du Congo, quant au rôle de la femme? Est-ce que son rôle a changé au cours des dernières décennies? Est-ce qu'elle a plus de place dans la société? Est-ce que Patricia est encore là? Allô, allô? Visiblement, non. Patricia, ce n'est pas grave. En tout cas, on vous a bien entendu. Je ne sais pas si on a un autre auditeur en ligne actuellement. On essaie de joindre Mathieu qui est en République démocratique du Congo. Il a écrit sur notre Facebook, son rôle a évolué en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Pour le continent noir, dit-il, la femme n'a pas tellement retrouvé la même place que l'homme, car ils ont tendance à respecter les lois de la nature, c'est-à-dire l'homme chef et la femme, une aide qui lui correspond. C'est Mathieu qui est en RDC, j'aimerais bien qu'on puisse parler avec lui. On a Aruna Baldé, qui est au Sénégal, on va essayer de le joindre, mais je crois que j'ai une dame au Sénégal. Ah non, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Zenabou,
oui,
Zegba.
C'est bien à Ouagadougou et c'est Zenabou à l'antenne.
Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, je vais bien, c'est Nathalie.
Oui, bonne fête à vous.
Merci.
Alors, donc, vous êtes vraiment très, très sympathique de nous consacrer un peu de votre temps, parce que j'imagine que vous êtes très occupée aujourd'hui, n'est-ce pas?
Ben, oui, alors, quand même occupée, oui.
Alors, parlez-nous un petit peu de la journée de la femme chez vous, et selon vous, quelle place occupe la femme au Burkina Faso? Est-ce que son rôle a changé ou évolué au cours des dernières décennies?
Alors, la femme occupe une très grande place dans la société, et c'est... Comment on va dire? Aujourd'hui, nous vivons avec les femmes, comme on dirait, une très grande surcharge en termes d'activité, parce que à cause de son rôle social, on attend beaucoup de la femme et elle est obligée de faire plus qu'il n'en faut pour pouvoir subvenir au moins aux besoins de la famille. Vous voyez au Burkina Faso ici des femmes très actives le matin dès 5 heures du matin, 4 heures, qui vont dans les villages reculés et acheter des légumes, venir revendre en ville. Elles sont donc dans les ménages, elles sont dans les marchés, elles sont dans les bureaux et ça fait une très grande surcharge. Et nous déplorons le fait que quand même les charges, les responsabilités ne sont pas assez partagées au niveau des familles. Alors c'est une part des choses. Et il y a également l'absence des femmes post-décisionnelles. On comprend bien sûr il y a un gap au niveau de l'égalité, ça part de l'éducation. Que la petite fille n'a pas obtenu jusqu'au bout à cause d'un certain nombre de choses, de barrières traditionnelles qui encore continuent, comme le mariage précoce, et alors elle est retirée plus tôt de l'école, ou bien en tout cas elle tombe enceinte et elle abandonne, ce qui fait que, bon, et statistiquement, elles ne sont pas aussi nombreuses que les hommes à avoir bien sûr les diplômes, mais en plus de ça, même à diplôme égal, les femmes ne sont pas au niveau décisionnel comme on l'aurait voulu. Il y a cela, et ce sont ces pesanteurs qui continuent donc dans nos sociétés, et donc que nous travaillons, nous faisons du plaidoyer pour que, en tout cas, les femmes puissent avoir leur place. Il y a une volonté politique, certes, mais jusque maintenant, et comme nous disons, et même les femmes rechignent, en tout cas refusent ou reculent, mais ça se comprend, c'est un poids social derrière qu'il faut travailler donc à alléger au niveau de tout le monde, si toute la société est d'accord. Et ça pourrait avancer. Mais les hommes ne céderont jamais la place aux femmes. Il faut, c'est par les luttes que ça va arriver. Et en tout cas, nous sommes dans ce combat pour qu'il y arrive. Il y a également donc ce qui accompagne et ce qui exacerbe ces difficultés des femmes, justement, ce sont les moyens financiers pour faire leur travail. Vous savez que la pauvreté a toujours un visage féminin, il faut le dire, et ça se comprend. Il y a des explications, bien sûr, comme on le dit. Elle n'hérite pas autant que l'homme encore dans nos sociétés. Par exemple, elle n'a pas le contrôle de la terre, qui est quand même un capital sur lequel on spécule aujourd'hui et qui donne de l'argent, ce qui la maintient dans une certaine pauvreté chez elle, chez son mari et dans la société en général.
Un grand merci, Zenabou Segba, à partir du Burkina Faso. Un grand merci à tout le monde, à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Très bonne fête des droits de la femme aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.